17h30, vous écoutez Radio Campus Paris. Vous retrouvez tout de suite petite consultation entre amis.
Petite consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris pour une émission spéciale Croix-Rouge à l'occasion de la campagne nationale de l'association qui débute aujourd'hui. Et on recevra le docteur Françoise Fromageau et Anthony Crépin, tous deux bénévoles à la Croix-Rouge. On parlera ensemble du pacte pour la santé. C'est le rapport que vient de publier l'association à l'occasion de sa campagne nationale. La piqûre de rappel, docteur Léo, sera consacrée à la bataille de Solferino. Les mots du médecin sont vraiment drôles, hein. Ce soir, on parle de neutralité et d'impartialité. On va encore plus se marrer avec l'expression rigolote. On parle de l'abus d'emblème. Et évidemment, on parlera de comment devenir bénévole à la Croix-Rouge et surtout de ce que fait un bénévole à la Croix-Rouge. À vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, enfin sur le plateau de Radio Campus Paris. Alors on sent un petit peu seul, docteur Léo.
On sent un peu seul. Heureusement qu'on a des invités.
Heureusement qu'on a des invités ce soir, parce qu'on n'a ni le docteur Marion ni le docteur Guillaume.
Ouais, l'équipe se réduit là.
Ah, de plus en plus, mais on les retrouvera la semaine prochaine normalement.
Mais j'espère, ouais.
Mais j'espère aussi. Bon, en tout cas, vous allez bien.
Ouais, sinon, moi ça va.
Tout va bien. Votre la voix profonde et caverneuse de la médecine est là ce soir.
Elle est en pleine forme.
Elle est en pleine forme. Et ben justement, on se fait un petit tour de l'actu santé.
Et l'actualité de cette semaine, c'est bien entendu le lancement de la campagne nationale de la Croix-Rouge, docteur Loïc.
Et effectivement, docteur Léo, cette semaine, et uniquement cette semaine, vous aurez le plaisir de pouvoir glisser votre petite pièce dans les troncs de la Croix-Rouge et de croiser, je sais que vous en rêvez, l'égérie de l'association, la so famous Adriana Carambeu. Alors justement, en plateau, alors pas Adriana, mais presque. Presque avec nous, le docteur Françoise Fromageau. Bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Vous êtes donc administratrice. Ah oui, on voit. Vous êtes donc administratrice de l'association, vous êtes également bénévole.
Je suis bénévole à Croix-Rouge, oui.
Et à côté de vous, Anthony Crépin, vous êtes également bénévole, et bénévole à Paris.
Oui, tout à fait.
Donc l'unité locale de la Croix-Rouge du 6e arrondissement.
Tout à fait.
Et on parle justement ce soir de la Croix-Rouge, et on parle justement en fait de la campagne nationale. Donc ça y est, les troncs sont prêts. Alors c'est quoi cette campagne nationale?
Cette campagne nationale, ce sont les journées nationales de la Croix-Rouge qui commencent aujourd'hui même, le 28, et puis qui se prolongent toute la semaine prochaine jusqu'au 5 juin. Et c'est l'occasion à la fois de faire la quête, mais aussi de montrer la Croix-Rouge dans la rue, de donner de la visibilité à la fois aux bénévoles et à la fois aux bénéficiaires, et de faire parler de la Croix-Rouge pendant toute cette semaine.
Donc toute une semaine, on va voir les volontaires de la Croix-Rouge habillés avec leurs uniformes.
Les volontaires, les salariés de la Croix-Rouge aussi, parce qu'on a beaucoup de salariés aussi qui quêtent. On a la Croix-Rouge est une maison qui emploie 22 000 salariés. Donc on a un certain nombre de nos collègues salariés qui quêtent aussi pour la Croix-Rouge.
Donc ça dure une semaine. Mais alors concrètement, l'argent va où?
Alors, ce qu'on privilégie en tout cas dans ces journées nationales, ce sont le financement des projets locaux. Et c'est aussi une manière d'inciter les bénévoles des territoires d'aller quêter, puisque en fait, ça permet de financer toutes les actions locales.
Alors, on regardait effectivement votre communiqué de presse. 1 euro, c'est un repas. Enfin, il y a plein de, on peut faire plein de choses.
Avec 1 euro, on peut effectivement donner à manger à une famille une journée. Oui.
Alors moi, si je suis étudiant, est-ce que je peux venir donner un coup de main à la Croix-Rouge?
Loïc, tout à fait. Vous êtes tout à fait bienvenu à la Croix-Rouge. Nous,
Loïc,
on appelle
n'est
ça.
N'est plus étudiant.
Alors, docteur Léo, je vous en prie. Les auditeurs n'ont pas l'image. Ne voient pas les cheveux blancs.
La juvénilité de ce jeune docteur.
Merci. Docteur Fromageau, merci.
Entre confrères, on
exactement,
peut
quand même, voilà. merci.
Donc, vous tapez à la porte de l'unité locale la plus proche de chez vous, mon cher Loïc, et vous dites, moi je suis prêt à vous accompagner les bénévoles de la Croix-Rouge, et ça s'appelle être 4 heures d'un jour, bénévole d'un jour. On vous mettra un joli petit dossard Croix-Rouge sur le dos, et puis vous quêterez aux côtés des bénévoles de la Croix-Rouge, et peut-être que vous aurez envie d'intégrer les équipes de la Croix-Rouge, qui sait.
Et en contrepartie, si je quête, je peux avoir...
Il y a certaines unités locales qui font beaucoup de travaux, par exemple, avec des étudiants, avec des IUT, et puis qui peuvent, en contrepartie, former de manière tout à fait gracieuse ces bénévoles d'un jour aux gestes de premier secours.
Du 28 mai au 5 juin, pendant les journées nationales, rejoignez le mouvement.
Venez, donnez, participez.
Alors, on vient d'entendre effectivement votre clip de la campagne nationale. Ouais. Mais alors, la nouveauté, c'est qu'à l'occasion de cette campagne nationale, la Croix-Rouge sera également le pacte pour la santé globale des plus vulnérables. Alors, c'est quoi exactement? Oui, exactement.
Parce que,
alors, ça paraît être un titre un peu compliqué.
C'est effectivement une grande première. Et moi, j'en suis ravie en tant que médecin et bénévole à la Croix-Rouge qu'on puisse, à travers ce pacte, éclairer la situation dramatique dans laquelle se trouvent les plus vulnérables de notre société. On sait très bien que la vulnérabilité, la précarité créent des problèmes de santé et entraînent une spirale, en tout cas, de la maladie. Et ça, c'est important puisque finalement, on a cette légitimité à la Croix-Rouge parce que ce sont des bénéficiaires qu'on côtoie tous les jours. Dans nos distributions alimentaires, dans nos distributions vestimentaires, lors de nos maraudes, dans les SAMU sociaux. Et aujourd'hui, cette vulnérabilité, cette précarisation, cette mauvaise santé de nos bénéficiaires, on la voit tous les jours. Et c'est aujourd'hui l'occasion, à travers ce pacte, de dire en tout cas au pouvoir public, de dire à nos concitoyens qu'il faut en tout cas faire quelque chose pour ces personnes qui sont très éloignées des soins.
Donc ce rapport, il reprend des situations un peu emblématiques. On voit qu'il y a, Mélanie, 30 ans, voilà, qui finalement est dans une situation de précarité extrême.
Exactement, docteur Loïc. L'idée, c'est de montrer les parcours, finalement, de cette perte d'autonomie, de cette perte de bonne santé, et qui font parcourir à la fois des personnes qui perdent leur emploi et qui peuvent être en précarité pendant quelques temps, des gens qui vivent déjà dans des familles précaires. On a aussi un éclairage très particulier sur les personnes qui vivent à la rue, et puis aussi toutes ces personnes qu'on vient d'accueillir sur notre territoire, que sont les migrants, et avec beaucoup d'expériences vécues autour du camp de Grande-Synthe, dans lequel nous participons à la permanence médicale. Donc c'est vraiment des bénéficiaires, des personnes qu'on a en soins, en charge, et qu'on peut percevoir de manière très aiguë et très importante, en tout cas, ces difficultés d'accès aux soins.
Alors vous m'en parliez hors antenne, j'espère que je ne dévoile pas un secret, mais en tout cas vous étiez, aviez consulté en fait, récemment en fait, sur le camp en tant que médecin.
Je suis allée à Grande-Synthe, et la question, c'est qu'effectivement on est dans des situations qui commencent à se chroniciser, c'est-à-dire qu'on voit arriver des migrants qui ont eux-mêmes des maladies chroniques avec une vraie difficulté d'accessibilité aux soins, des patients diabétiques, des patients épileptiques. On a beaucoup de difficultés sur tout ce qui concerne les soins dentaires. Et puis on a aussi maintenant que les personnes s'installent un peu à Grande-Synthe depuis un mois et demi, vraiment l'émergence de pathologies un peu psychologiques, des maux de ventre, des maux de dos, et une vraie urgence autour d'un accompagnement psychosocial, en tout cas de ces populations.
Alors concrètement, quelles recommandations fait la Croix-Rouge française auprès des pouvoirs publics?
Alors la Croix-Rouge française, elle a une vraie légitimité, hein, parce que d'abord, elle s'est inscrite dans ses gènes, dans son histoire. La Croix-Rouge française est à l'origine des études d'infirmières. La Croix-Rouge française a préfiguré les SAMU. La Croix-Rouge française a créé les écoles d'ambulanciers. La Croix-Rouge française a créé tout ce qui concernait la formation des hôtesses de l'air. Enfin, je veux dire, on a dans la Croix-Rouge française, dans chaque région, un institut de formation de soins infirmiers.
Santé est quand même quelque chose historiquement...
Voilà, la Croix-Rouge française gère 600 établissements de santé et médico-sociaux. Donc je pense qu'on a, au-delà de la rencontre de ces bénévoles en précarité, une vraie légitimité de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse travailler en transversalité entre le sanitaire et le médico-social. Je pense que c'est important. Qu'aujourd'hui, au vu des difficultés d'accessibilité géographique et financière de l'accès aux soins, il faut aller vers ces populations qui sont très éloignées des soins. Que ça soit par des dispositifs pour Croix-Rouge sur Roue, créer des APASM, c'est-à-dire c'est des accueils de premiers secours qui sont tenus par des personnels de santé bénévoles. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ce aller vers. On est vraiment dans la réception des besoins des personnes, et on est en capacité de répondre assez rapidement justement à ces besoins avec des solutions qui sont parfois très innovantes.
Donc ça s'appelle le pacte pour la santé globale
ça
des plus vulnérables.
Alors c'est la première édition.
Première édition, c'était chargeable sur le site de la Croix-Rouge, j'imagine,
www.croix-rouge.fr. Très certainement, et j'espère aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler, avec un attendu la deuxième année, et vraiment l'ambition pour la Croix-Rouge de créer un véritable observatoire autour de ces questions-là.
En tout cas, c'est pas du tout illisible. C'est vraiment des vrais parcours de vie.
C'est la vraie vie.
Voilà, c'est exactement. C'est la vraie vie. C'est très intéressant à lire.
C'est la vraie vie.
On l'a fait. C'est vraiment. Voilà. On vous encourage en tout cas à aller télécharger ce pack, ce pacte pour la santé globale des plus vulnérables. Et on parlait justement histoire et on va justement parler de notre piqûre de rappel.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux, c'est celle profonde des cavernes de Dr Léo. Et Dr Léo, ce soir, vous nous parlez du jour où Henri Dunant a vu cette fameuse bataille de Solferino. Si je ne m'abuse, c'était le 24 juin 1859.
Exactement, c'est ce jour qu'Henri Dunant assiste à cette bataille de Solferino en Italie où s'affrontent 330 000 soldats chargés à l'eau de vie et répartis entre les forces de Napoléon III et celles de l'empereur autrichien François-Joseph. Car oui, avant d'être le nom par lequel on désigne le siège du Parti Socialiste, Solferino, c'est aussi une véritable boucherie humaine, ce que le siège du Parti Socialiste deviendra peut-être également, qui sait.
Eh, bravo Docteur Léo, bravo.
Ça commence bien. Donc Solferino, c'est 15 heures d'affrontement qui font 6 000 morts et 40 000 blessés laissés à leur sort sur ce qui reste de champ de bataille. Et c'est sur cette trame qu'apparaît Henri Dunant, entrepreneur suisse d'une trentaine d'années, de passage, qui désire discuter business avec le petit Napoléon et ce afin de faire fructifier les terres qu'il a achetées en Algérie. Alors le souverain lui refuse l'audience et Henri Dunant, par ennui, par curiosité sadique ou peut-être par simple coïncidence, décide de se rendre compte par ses propres yeux des jeux de la guerre. Il assiste donc au combat et observe le lendemain ce à quoi ressemble un champ de bataille désormais délaissé par les armées. Et c'est là que tout bascule. Car Henri Dunant aura la joie d'humer les émanations fétides et d'observer les terres jonchées de cadavres où ruisselle le sang. Il découvre les blessés qui manquent de tout, d'eau, de nourriture, de soins et qui sont dépouillés puis abandonnés pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard, dont on vous épargnera quand même la musique. Choqué, non pas par Herbert Léonard mais parce qu'il voit, Henri Dunant décide tant bien que mal d'organiser des secours pour tous sur place.
Même si vous n'êtes pas médecin, vous nous serez très utile.
Ce sont les infirmiers. Vous oubliez que ce sont des Autrichiens, monsieur.
Je suis chirurgien.
Donnez-leur de quoi se laver, se préparer à opérer. Allez, grouillez, caporal !
Eh oui, grouillez, caporal, car à partir de cette expérience traumatisante, Henri Dunant veut produire une crise de conscience européenne. Il écrit alors un livre, Un souvenir de Solferino, paru en 1862, dans lequel il raconte sa vision d'horreur qu'il a eue à Solferino, et dans lequel il propose notamment de constituer, en temps de paix, des sociétés qui porteraient secours aux blessés en temps de guerre. On vous passe les détails juridiques et diplomatiques, mais finissent par voir le jour, quelques années plus tard, deux initiatives. Alors l'une est publique, c'est une convention pour l'amélioration du sort des blessés militaires, et l'autre est privée, c'est le Comité international et permanent de secours aux militaires blessés en temps de guerre. Les prémices du mouvement en Croix-Rouge sont posées, aujourd'hui mastodonte humanitaire de 97 millions de volontaires, de membres et d'employés quand même, répartis dans 190 pays.
Alors, et Henri dans tout ça ?
Et oui, parce que là on oublie Henri. Henri, il a de bonnes idées, il est désormais connu, mais Henri est ruiné. Hein. Il traverse des années de misère où il survit de charité de quelques amis. Il finit même par vivre dans un hospice seul. Alors il est finalement reconnu en 1895 par un journaliste qui va écrire un article sur sa personne, qui aura son petit retentissement en Europe, et c'est le retour progressif à la lumière jusqu'à que lui soit attribué en 1901 le premier prix Nobel de la paix. Ouais. Donc comme quoi, vouloir faire des affaires avec les puissants, cela peut être un bienfait pour l'humanité, à condition de s'arrêter avant de les avoir rencontrés.
Merci beaucoup Docteur Léo. Donc Henri Dunant, la bataille de Solferino, on peut lire hein, d'ailleurs, ça s'appelle Un souvenir de Solferino, un souvenir de Solferino, et c'est
un
le
livre.
Un beau livre,
ouais,
c'est exactement écrit. À la suite de cette sanglante bataille. Et alors sanglante, c'est pas la musique en tout cas qu'on va écouter sur Radio Campus Paris. On écoute tout de suite Michael Jackson, We Don't Care About Us.
Yeah.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, c'est une très très bonne idée, c'était Michael Jackson. L'album historique, c'était sorti en 1995 et on retrouve tout de suite eh bien, nos infos qu'il faut.
Quoi de neuf, docteur ? Eh bien aujourd'hui, alors on l'a dit, c'est le lancement de la campagne nationale de la Croix-Rouge, mais c'est aussi la journée internationale d'action pour la santé des femmes, docteur Loïc.
Et effectivement, pour faire simple, les femmes font face à des obstacles qui réduisent leurs accès à des services de santé de qualité, et on retrouve bien entendu des obstacles économiques, culturels et politiques, et l'enjeu de cette journée, c'est de dénoncer ces obstacles et de permettre un meilleur accès à la santé pour les femmes, tout simplement.
Femme, je vous aime, mais le mardi 31 mai, j'aime moins le tabac, puisque la journée mondiale sans tabac.
Exactement, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an.
Cette année, j'arrête, sauf avant l'émission.
Alors oui, donc la journée mondiale sans tabac vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de santé dans la lutte anti-tabac. Et on le rappelle, de nombreux outils peuvent vous aider dans l'arrêt du tabac, c'est notamment le cas de Tabac Info Service. Par téléphone, vous pouvez le joindre au 39 89 en ayant des tabacologues au bout du fil. Le site internet, c'est tabac-info-service.fr et vous avez même une application sur votre smartphone.
Et sinon, c'est la semaine nationale de la sensibilisation à l'hémochromatose.
Ah ouais, rien qu'en France, l'hémochromatose touche une personne sur 300 et se manifeste souvent après 35 ans. Alors, elle constitue la première maladie génétique de l'Hexagone et elle est malgré tout très peu connue du grand public.
Et du coup, c'est quoi, docteur Loïc ?
Alors, l'hémochromatose, c'est une maladie génétique qui se caractérise par l'absorption de fer en trop grande quantité dans le corps. Et le souci, c'est que ce fer s'accumule dans certains organes. Alors, il y a toute une liste de symptômes, une fatigue inexpliquée, des troubles de la libido, ça vous concerne ça docteur Léo ? Pas du tout.
Non, absolument pas.
Très classe, une peau énormément bronzée, des douleurs articulaires, des affections du foie, des troubles cardiaques, enfin j'en passe et des meilleurs. En gros, l'objectif de cette semaine nationale de sensibilisation à l'hémochromatose, c'est de susciter une prise de conscience des professionnels de santé et du grand public. L'hémochromatose, ça touche un Français sur 300, soit plus de 200 000 patients, et 2000 personnes décèdent chaque année de cette maladie, alors qu'un simple dépistage pratiqué entre 20 et 35 ans permet de démarrer un traitement accessible et obtenir la disparition de la plupart des symptômes ainsi qu'un retour à une espérance de vie normale.
Et enfin, le jeudi 2 juin, jeudi prochain, c'est la journée mondiale de l'orthoptique, si je
alors,
le dis
oui,
bien.
Alors l'orthoptique, c'est la discipline dont la vocation est le dépistage et surtout la rééducation des troubles de la vision. Alors tout ça, vous dites, oula, rien de louche là-dedans. Le but de la journée, c'est de faire connaître le rôle et les activités de ces professionnels qui, évidemment, travaillent en collaboration directe avec les ophtalmologistes et les opticiens.
C'est formidable, guidé par le plaisir immédiat.
Il faut être beaucoup plus vigilant et avoir l'antibiothérapie sans
le chut, c'est à toi qu'interview.
Retour sur le plateau de Radio Campus Paris avec le docteur Françoise Fromageau et puis Anthony Crépin. Vous êtes tous les deux bénévoles à la Croix-Rouge française. Et justement, on va parler un peu maintenant de être bénévole à la Croix-Rouge française. Finalement, c'est quoi ?
C'est plutôt assez facile en fait. C'est prendre un peu de temps qu'on a pour essayer de le donner aux autres. C'est une application qui est quand même... Enfin, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait beaucoup de bien derrière, aussi bien aux autres qu'à soi-même.
Alors pour quelle raison on s'engage vous, Anthony ? Pourquoi vous êtes engagé à la Croix-Rouge française ?
Bon alors moi c'est en l'occurrence je suis motard et régulièrement sur le périph je voyais des mecs par terre et je me suis dit que si quelqu'un tombait devant moi, j'aimerais bien savoir quoi faire pour essayer de maximiser ses chances et voilà.
Et vous Françoise, votre parcours ?
Moi je suis rentrée un peu par hasard à la Croix-Rouge parce que je suis médecin et on m'avait sollicité pour être jurée d'examen des brevets de secourisme à l'époque et puis ça m'a plu, je suis restée, ça fait 35 ans que j'y suis. Voilà, et...
Mais on n'est pas obligé d'avoir une formation médicale ou paramédicale
tout,
pour rentrer à la Croix-Rouge.
Pas du tout. Moi, c'est mon histoire personnelle qui fait que je suis rentrée un petit peu par hasard. Et...
Vous, Anthony, et vous n'êtes pas du tout professionnel de santé ?
Pas du tout. Non, je travaille dans l'analyse de gaz.
L'analyse de gaz, d'accord. Okay, donc rien à voir.
Rien du tout.
Rien du tout. Et généralement, les bénévoles de la Croix-Rouge sont plutôt affiliés à des professions en lien avec la santé ou pas du tout ?
Pas du tout. Et les bénévoles de la Croix-Rouge, ce sont les représentants de la société civile. Et ce qui est intéressant à la Croix-Rouge, c'est qu'on qu'on a beaucoup de jeunes. On est une association relativement jeune. On a 20% de nos bénévoles, c'est-à-dire 13 000 bénévoles qui ont moins de 30 ans. Évidemment qu'il y a le secourisme qui draine beaucoup de jeunesse, mais on a un certain nombre d'activités sociales, les maraudes, Croix-Rouge-sur-Roue.
La Croix-Rouge-sur-Roue, c'est quoi la Croix-Rouge-sur-Roue?
La Croix-Rouge-sur-Roue, c'est une vraie belle bonne idée. La Croix-Rouge-sur-Roue, c'est un camion dans lequel on peut mettre de l'alimentaire, dans lequel on peut mettre du vestimentaire, dans lequel on peut mettre une assistante sociale, dans lequel on peut mettre un moniteur de gestes au premier secours, dans lequel on peut mettre quelqu'un qui va travailler sur l'alphabétisation. Enfin, vraiment, Croix-Rouge-sur-Roue, c'est vraiment...
Le bus magique.
Le bus magique, c'est vraiment le aller vert, mais le aller vert en respectant la personne qui a la liberté ou pas de répondre à cette demande. Parce que dans ce aller vert, il faut toujours respecter finalement la personne vers qui vous allez.
Alors ça, c'est un des grands principes, justement. Alors, il y a sept principes qui régissent la Croix-Rouge.
Oui.
Par cœur, comme ça, Anthony, j'imagine.
Allez, Anthony, dépêche-toi.
Donc, du coup, l'humanité, l'universalité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat et l'universalité.
Et l'universalité. Alors, justement, docteur Léo, vous avez travaillé un petit peu sur ces mots, impartialité et neutralité.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Alors vous allez essayer de nous expliquer, docteur Léo, la différence entre l'impartialité et la neutralité, qui sont deux des sept principes de la Croix-Rouge française.
Exactement, ouais. Je vais essayer d'être clair, ce qui n'est pas garanti en l'état. Alors, on est confond souvent, l'impartialité déjà, c'est le fait que le mouvement ne réalise finalement aucune distinction, que ce soit de nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou même d'appartenance politique dans son action.
Alors quand vous dites le mouvement, c'est le mouvement de la Croix-Rouge.
Le mouvement de la Croix-Rouge, exactement. Alors est-ce qu'on doit revenir un peu sur toutes les entités de la Croix-Rouge?
Oula, je pense que ça va être, on va s'y perdre, parce que même nous on s'y perd.
Parlons donc du mouvement. Donc, l'impartialité, donc, c'est le fait que l'action du mouvement s'applique, le mouvement s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. En fait, finalement, la seule priorité, c'est l'urgence médicale, notamment et pas uniquement, peu importe qui vous êtes et d'où vous venez.
Donc, c'est-à-dire que sur les champs de bataille, ça s'est dérivé un peu de Solferino, si je comprends bien, c'est qu'on dit, bon, on prend tout le monde, on soigne tout le monde.
Oui, on soigne tout le monde.
Le seul critère, c'est la personne qui a besoin de soins. Et que ce soit,
exactement, c'est le soin inconditionnel.
Et alors, la neutralité, par contre, rien à voir.
Neutralité, rien à voir, c'est un concept un peu plus politique. On se déplace un peu du champ d'action brut, on peut dire, du mouvement, et en fait, c'est afin de garder la confiance de tous. Le mouvement donc Croix-Rouge s'abstient de prendre part aux hostilités en temps de guerre et en tout temps aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. En fait, ce sont des principes qui permettent l'action la plus large possible, au sens large, donc qui peut bénéficier au plus grand monde. Le mouvement Croix-Rouge n'a pas vocation à se prononcer sur des controverses, à prendre des positions, ce qu'il fait à de très rares et de très graves occasions, de coup. Et parce que parfois, s'opposer publiquement à certains gouvernements, c'est très pragmatiquement se fermer certaines portes et donc fermer des possibilités de soins, par exemple. Or, le mouvement est là pour prévenir des souffrances, protéger la vie et finalement garantir la dignité humaine.
Pas mal. Donc ça, c'est quand même bien pratique un peu ces principes pour accéder à tout le monde. Principe de neutralité et d'impartialité. Alors revenons un peu sur les activités du bénévole. Vous l'évoquiez, une des activités un peu phares quand on pense à la Croix-Rouge, on pense au secourisme.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs. Le secours, en fait, donc consiste à des missions locales dans les arrondissements ou dans Paris, dans toute la France d'ailleurs, en fait, puisque la Croix-Rouge est présente partout. Des missions locales et des réseaux de secours aussi. Sur Paris, on a la chance de pouvoir travailler avec les pompiers de Paris et le SAMU de Paris en primo-intervenant.
Alors justement, on a retrouvé des extraits sonores, effectivement, d'intervention de vos équipes de secours.
Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous.
J'ai mal.
Vous avez très mal au niveau du bassin, enfin du dos?
Oui. Est-ce que je peux vous demander qui vous êtes?
Nous, on est la Croix-Rouge française, monsieur. Nous, on est là pour vous aider. On aide les pompiers. Et donc, vous avez appelé les pompiers, donc c'est pour ça qu'on est là, d'accord?
On est équivalent au véhicule de secours et d'assistance aux victimes des pompiers de Paris.
Donc ils le disent dans le reportage très clairement, vous faites la même chose que les pompiers? On a les mêmes formations?
On a le même niveau de formation pour tout ce qui est secours à personne. Le feu, on leur laisse par contre.
Voilà, mais en tout cas, tout ce qui est secours. Alors, vous avez d'autres interventions également. On parle de tout ce qui est SAMU social. Donc, c'est ça, c'est un peu les maraudes. C'est-à-dire, vous allez voir les personnes qui sont sans domicile.
Là, c'est la partie. Oui, on a fait une mission sociale aussi qu'on va gérer. Donc, le SAMU social, c'est un renfort qu'on va apporter pendant les périodes hivernales de façon à augmenter les capacités de réponse du SAMU social. Et sinon, pendant toute l'année, au niveau on fait des maraudes, en fait. On va se balader dans l'arrondissement à la rencontre des bénéficiaires de façon à essayer de recréer un tissu social avec eux, un lien social en tout cas.
On a été voir Lionel, en fait, il dormait, donc on lui a mis une petite couette sur lui et on lui a déposé un peu de pain et une bouteille d'eau.
Donc vous avez une vraie, en tout cas, palette d'activités, c'est-à-dire vous avez et de l'urgence du secourisme et de l'action sociale. Vous allez dans les rues, mais vous avez, vous en parliez également, docteur Fromageau, les vestiboutiques, l'aide.
Vestiboutiques, distribution alimentaire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est, peu connu finalement la Croix-Rouge sur toutes nos activités. On est le premier opérateur de maraude sur le territoire. Nous sommes aussi l'un des premiers distributeurs aussi en termes d'alimentation sur le territoire. On a énormément de vestiboutiques, on travaille beaucoup.
Donc
aussi.
La vestiboutique, on rappelle le principe, c'est des vêtements à bas prix ou quasiment gratuits.
C'est l'idée aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que la personne bénéficiaire se sente citoyenne, dans le sens où elle participe un minimum à l'achat et qu'elle est, comme tout un chacun, personne, cliente d'une vestiboutique et qu'elle a le choix entre un certain nombre d'articles sans discrimination. Et ça, je pense que c'est vraiment important.
Et dernier volet, parce que vous êtes un peu un bénévole exceptionnel, Anthony, parce que vous êtes aussi, un bénévole à l'international. C'est-à-dire que vous pouvez intervenir sur des catastrophes à l'international.
Tout à fait. J'ai intégré du coup, les équipes des ERU, les équipes de réponse d'urgence, qui sont des équipes qui sont mobilisables sous 48 heures en cas de catastrophe naturelle.
Alors vous n'êtes pas du tout médecin, du coup, c'est quoi votre rôle ?
Je m'occupe de l'eau potable, en fait, et des sanitaires aussi, parce qu'il en faut. L'eau, en fait, est un vecteur de maladie.
D'accord, donc ça, c'est votre métier dans le civil, entre guillemets, et donc vous le mettez à profit pour les opérations internationales.
Tout à fait, dès que cela est possible et compatible.
Alors justement, on retrouve ces fameuses équipes de réponse aux urgences sur la catastrophe d'Haïti.
On est en train de charger 35 tonnes de matériel dans un avion cargo à destination de Port-au-Prince. Demain, on va arriver avec ces matériels. On va essayer de se déployer le plus rapidement possible et d'être efficace le plus tôt possible et le plus vite possible.
Haïti, ça va être un gros challenge, mais on a une équipe en plus qui arrive en soutien dès demain, une équipe vraiment expérimentée, très compétente. On va avoir des difficultés, mais on va être confiant dans, en fait, d'apporter tout ce matériel et toute cette aide aux populations qui en ont besoin.
Donc voilà, en tout cas, on l'entend, un vrai champ, en tout cas une vraie palette d'activités. Et donc pour rejoindre les équipes de la Croix-Rouge, rien de plus simple, je vais voir l'unité locale la plus proche de chez moi, c'est ça ?
Tout
exactement.
À fait.
Il y en a dans chaque arrondissement à Paris ?
Dans chaque arrondissement, et on a plus de 1000 implantations sur le territoire. Donc on trouve une porte Croix-Rouge, un drapeau Croix-Rouge pas très loin de chez soi.
Et donc un site internet, www.croix-rouge.fr, si je ne m'abuse.
Exactement, docteur Loïc.
Très bien. Eh ben, un grand merci en tout cas, docteur Fromageau et Anthony.
Merci de nous avoir accueillis.
Ah ben, je vous en prie, c'est un plaisir.
En tout cas, les auditeurs à venir donner un petit peu aux bénévoles que vous croiserez.
Exactement. Donc la campagne nationale, eh bien, c'est aujourd'hui et c'est parti pour une semaine. Et on va se quitter, docteur Léo, eh bien, avec l'expression rigolote.
O, D, I, maintenant L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
L'expression rigolote, c'est justement eh bien, l'abus d'emblème. Donc on parle de l'emblème de la Croix-Rouge. Et donc l'abus d'emblème, qu'est-ce que c'est, docteur Léo ?
Ouais, alors je vais vous expliquer tout ça en humour, hein, puisque c'est quand même
c'est drôle.
Très
drôle,
effectivement. L'abus d'emblème. Alors en fait, c'est parce que l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du coup, est un objet de débat. Alors il est rapidement devenu un objet de débat parce que le premier emblème est apparu dans le temps. Donc c'est une Croix-Rouge sur fond blanc, comme on a l'habitude de le voir en France. C'est un hommage rendu au drapeau suisse, en fait. C'est les couleurs qui sont inversées. Mais il a posé problème parce que dans certaines société, il pouvait avoir une connotation religieuse qui ne revendique en réalité pas du tout. Et donc pour éviter toute controverse et tout équivoque, d'autres emblèmes ont été permis, donc le croissant rouge, le cristal rouge même. Alors il y a des emblèmes, donc les trois que j'ai cités, et ils sont, leur utilisation est finalement réservée à certains acteurs. Hein. Il y a les membres du mouvement Croix-Rouge évidemment, mais aussi les services médicaux de forces armées sous certaines conditions. Bon, et si ce ne sont pas ces acteurs qui les utilisent, alors là il y a abus d'emblème. Du coup on a un peu des détournements de tout et n'importe quoi. On a des détournements commerciaux, on a beaucoup de t-shirts, hein. Moi je me rappelle avoir vu une fois un t-shirt orné d'une magnifique stripteaseuse fondue magnifiquement, tout autant magnifiquement en tout cas, sur l'emblème de la Croix-Rouge.
Donc c'est complètement illégal, c'est hors la loi.
C'est hors la loi, ouais. Il y a des détournements qui peuvent être aussi politiques, hein, comme le Front National qui, toujours aussi honnête dans sa communication, avait reproduit l'emblème sur un tract de campagne.
Très classe, hein. très classe.
Mais plus compliqué encore, il y a les usages dans un temps de conflit armé. On se rappelle notamment que l'armée colombienne a utilisé, alors je cite, un morceau de tissu accroché sur une veste, ce sont les mots de l'ex-président colombien. Justement, ce morceau de tissu avec l'emblème lors de son opération de sauvetage d'Ingrid Betancourt en 2008. Voilà, mais il y a pire que l'abus d'emblème, il y a la perfidie. Alors la perfidie en langage courant, c'est l'action d'être perfide, ce qui ne nous avance pas plus, je vous l'accorde. Le perfide, c'est celui qui est dangereux sous des apparences favorables. Eh bien, être perfide, c'est prohibé, tout comme l'abus d'emblème d'ailleurs, par le droit des conflits armés, mais cela constitue en plus un crime de guerre. En fait, pour faire simple, user d'un emblème alors qu'on n'en a pas le droit, c'est un abus d'emblème, une tromperie, mais user d'un emblème pour nuire, c'est une perfidie.
Merci beaucoup, Docteur Léo. Et c'est déjà la fin eh bien, de petites consultations entre amis.
Très bonne note.
Oui, exactement. Super. Merci la perfidie. Hein, du coup, en tout cas, nous, on ne fait pas preuve de perfidie dans nos émissions, j'espère.
Jamais.
Rappelons évidemment que vous pouvez bien retrouver toutes les informations sur le site www.radiocampusparis.org. Juste après nous, vous retrouvez l'œil à l'écoute à 19h Tropical Club. La semaine prochaine, eh bien, on parlera du cerveau. Eh oui, tout à fait.
Et n'oubliez pas la quête.
Exactement. Campagne nationale de la Croix-Rouge, évidemment. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, ciao.
Allez, ciao.
Au revoir. Strange thing to run from a friend. How could one get so cold? The sky met ages ago.